Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, mes bien chers fidèles, je voudrais vous parler d'un trésor caché pour la plupart des chrétiens. Et ce trésor, eh bien, vous l'avez peut-être deviné, le trésor, c'est la Sainte Messe. Elle est la plus divine gloire de l'Église de Dieu. Elle est le soleil du christianisme. Représentez-vous le monde sans soleil, la vie n'est pas possible. Eh bien, la messe, c'est le soleil du christianisme. Sans la messe, le christianisme ne peut pas subsister. La messe, c'est le cœur de la religion de Jésus-Christ. Un corps sans cœur ne peut pas vivre. Si le cœur s'arrête de battre, le corps dépérit. La messe est le résumé de tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'Église de Dieu. Oui, c'est un trésor caché. Ah, si nous savions quelle est cette perle du paradis. Nous n'hésiterions pas un instant. Nous offririons volontiers du temps pour entendre les saintes messes. Oui, si nous savions ce qu'est la sainte messe. Il est bien sûr impossible ici-bas de se faire une idée parfaite de ce qu'est la sainte messe. Mais nous pouvons avoir une connaissance suffisante pour en avoir une haute estime. Ne pouvant tout vous dire sur la messe, je me contenterai de vous en donner quelques idées afin que la Sainte Messe obtienne de vous l'estime qu'elle mérite, afin d'aider vos cœurs à apprécier davantage ce trésor. Et qu'est-ce qui fait que la Sainte Messe est ce qu'il y a de plus précieux ici-bas sur la terre? Eh bien, parce que c'est l'œuvre la plus merveilleuse que Dieu accomplit. Non pas que les hommes accomplissent, mais que Dieu lui-même accomplit. Oui, mes bien chers fidèles, nous le savons, bien sûr, mais sans en être bien conscients, qu'à chaque messe, Jésus renouvelle ce sacrifice qu'il a offert sur le calvaire, à la différence, bien sûr, que le sacrifice de la croix fut sanglant, tandis que sur l'autel, il offre d'une manière non sanglante. Pour quelle raison le bon Dieu a voulu renouveler si souvent son sacrifice? Eh bien, c'est afin d'appliquer sans cesse à chacun de nous, à chacun en particulier, la rédemption générale acquise par sa douloureuse immolation. La messe n'est pas seulement un mémorial, n'est pas seulement un rappel de la scène de la passion de Jésus. Non, la messe n'est pas cela. La messe, c'est la reproduction réelle et certaine de ce qui s'est accompli sur la croix. Ça se reproduit à chaque messe qui se célèbre dans nos chapelles. L'Église nous dit que la Sainte Messe, c'est l'œuvre même de notre rédemption qui s'accomplit à nouveau. Quelle merveille! Ô merveille inexprimable! Si nous réfléchissions un peu, si nous réfléchissions qu'à chaque messe, nous montons au calvaire pour assister à la mort de notre Seigneur. Oh, combien nous serions davantage recueillis, combien nous serions davantage fervents. Nous ne nous permettrions pas de dissipation. Nous ne nous permettrions jamais d'arriver en retard à une chose si grande, si belle, si importante. Oui. Voyez, mes bien chers fidèles, le péché est quelque chose d'horrible. Mais celui qui se commet pendant le temps de la messe attire plus que tout autre la malédiction de Dieu. Ce qui fait que la Sainte Messe est ce qu'il y a de plus précieux ici-bas, c'est aussi qu'elle a pour ministre et pour prêtre Dieu lui-même, l'homme, Dieu-homme. Dans une action aussi sainte que celle de la Sainte Messe, il y a trois choses à considérer spécialement. Le prêtre qui offre, la victime qui est offerte, la majesté de celui à qui l'on offre. Eh bien, ici nous trouvons comme prêtre qui offre, comme Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme victime, nous avons la vie même de Dieu, la vie d'un Dieu. Et comme fin, Dieu lui-même. Voyez que c'est donc à la messe l'œuvre de Dieu, totalement. Et c'est la foi qui nous élève au-dessus des réalités sensibles, des réalités matérielles, pour nous faire reconnaître dans le prêtre qui est à l'autel la personne adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en fait, le prêtre principal, c'est Jésus-Christ. Il est le prêtre principal non seulement parce qu'il a institué cet auguste sacrifice et qu'il lui a donné par ses mérites toute son efficacité, mais encore parce qu'à chacune de ses messes, notre Seigneur daigne lui-même changer pour nous le pain et le vin en son corps adorable et en son sang précieux. Dites-moi, y a-t-il quelque chose sur la terre qui puisse être aussi sublime que cela? Voilà le plus grand privilège de la messe, c'est d'avoir pour prêtre l'homme-Dieu. Et donc, quand vous voyez le célébrant à l'autel, sachez que son principal mérite, c'est d'être le ministre de ce prêtre éternel. Ce prêtre éternel invisible, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le sacrifice de la messe ne cesse d'être d'agréable à Dieu. Même si le prêtre est moins bon, notre Seigneur présente à Dieu le Père son sang, son âme, sa personne entière. Il est présente pour nous, et cela autant de fois qu'il se célèbre de messe dans le monde. Oh, que la Sainte Messe est quelque chose de grand. C'est un trésor immense, une source d'inappréciable richesse. Que de mérites nous gagnons à chaque messe entendue avec ferveur. Que de grâce en cette vie et quelle gloire dans l'autre nous pouvons acquérir. Ah, si nous pouvions comprendre un peu. Nous voudrions assister à toutes les messes qui se disent. Eh oui. Mais quand nous comprendrons, à ce moment-là, que de remords, oui, que de regrets nous aurons pendant toute l'éternité. Si j'avais réfléchi, si je m'étais donné la peine de penser un peu à ce qu'était la messe, je pouvais si facilement assister tous les jours. Et je négligeais, je me suis laissé prendre par tant de préoccupations futiles et j'ai laissé passer à côté de moi cette perle précieuse, pas avoir recherché la perle précieuse, la perle de grand prix. Et si nous réfléchissions à ce que nous faisons ou ce que nous devrions faire en assistant à la Sainte Messe. Voyez, mes chers fidèles, la messe n'est pas seulement une prière, c'est un acte d'adoration. C'est une offrande divine. Et les fidèles ont le pouvoir, vous avez, oui, le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe. Vous n'êtes pas seulement là pour lire dans vos missels, vous avez le pouvoir d'offrir la divine victime à Dieu le Père. Est-ce que ce n'est pas une chose merveilleuse que Dieu a accordé à tous les fidèles, sans distinction, de pouvoir offrir à sa souveraine majesté cet auguste sacrifice? Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire à la Sainte Messe. Quel privilège! Voilà, de pouvoir offrir si aisément ce corps et ce sang du Sauveur. Oui, les fidèles concourent avec le prêtre à offrir ce sacrifice, et c'est d'ailleurs pourquoi le prêtre dira à l'offertoire, juste après l'offertoire, quand il se tournera vers vous, Orate fratres. Réfléchissez à cette belle prière. Orate fratres. Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, soit accepté de Dieu. Alors, mes bien chers fidèles, réfléchissez un peu. Ne soyons pas des cœurs pleins de ronces, où la parole de Dieu est étouffée. C'est-à-dire ces cœurs pleins des soucis, pleins des pensées de ce monde. Quel dommage! La parole de Dieu ne peut pas produire des fruits. Elle est étouffée. Réfléchissons donc un peu à ce bonheur qui nous est fait lorsque nous pouvons assister à la Sainte Messe. Ce qui se réalise. Voilà. Et ce qu'il faut faire. Non pas rester là, attendre que ça finisse, regarder de temps en temps la montre pour voir si on peut bientôt sortir. Imaginez, qu'est-ce que ça doit représenter, cette attitude devant Dieu? Dieu qui se donne de la peine de descendre sur l'autel pour réaliser ses mystères pour nous. Et nous, quel cas nous en faisons? Oh oui, rentrons un peu en nous-mêmes, réfléchissons, apprécions ces choses qui valent la peine. Voilà. Que nous n'ayons pas ces regrets pendant l'éternité, si j'avais su, si j'avais fait attention, si j'avais fait grand cas de ce qui nous était donné. Oui. Nous disposons nos cœurs et puis demandons à notre Sainte Vierge Marie, demandons à Saint Jean qui ont assisté, qui était auprès de la croix, de nous donner la grâce d'assister avec mieux, avec plus de ferveur, avec plus de dévotion, avec plus de grand désir à ce saint sacrifice de la messe. Vous voyez, au calvaire, il y avait des gens de toutes sortes. Il y avait Saint Jean, la Sainte Vierge, les saintes femmes. Pour eux, la Sainte Messe a été utile. Mais il y avait aussi les bourreaux. Pour certains, elle a été utile. Il y a eu aussi ces juifs, ces curieux, ces badauds. Il y avait ses ennemis. Pour eux, elle n'a pas été utile. Elle a été encore un plus grave motif de condamnation. Et bien que pour nous, la messe ne soit pas un sujet de condamnation. Bon, d'y assister avec toute la ferveur, toute l'ardeur de notre cœur, de notre âme et de penser, d'offrir cette divine victime, de nous unir à toutes ces prières du canon de la messe. Et vous voyez, il y a une petite phrase très importante qui vous unit à tout le canon de la messe. C'est le petit « Amen » avant le Pater. Il y en a beaucoup qui ne disent pas « Amen », qui ne répondent pas « Amen ». Quel dommage, parce que c'est par ce « Amen » qu'ils s'unissent, puisqu'ils disent qu'il en soit ainsi. De toutes ces prières que le prêtre, de tout ce qui s'est réalisé pendant le canon, qu'il en soit ainsi. Nous nous unissons à tout cela. Quel dommage. Donc, d'où l'importance de bien répondre aux prières du prêtre. Pour mieux vous unir à ce que fait le prêtre et pour offrir avec lui, car c'est aussi votre sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez certainement prêté attention à ce magnifique introïte qui nous a été chanté par la chorale et dans laquelle nous sommes invités à bénir la très sainte et très auguste Trinité. Oh oui, mes bien chers fidèles, qu'il est digne que nous bénissions, que nous honorions, que nous louions la très sainte Trinité, ce Dieu unique et pourtant en trois personnes, certes un mystère. Et tout particulièrement aujourd'hui, à l'occasion de ces premières communions, l'introïte continue en disant pourquoi nous devons louer et bénir la très sainte Trinité. Parce qu'elle a fait avec nous miséricorde, parce qu'elle a répandu sur nous toutes les miséricordes. Et quelles sont ces miséricordes d'un Dieu? Eh bien, c'est une des miséricordes, une parmi tant et tant d'autres miséricordes, c'est celle de la très sainte Eucharistie. Oh, c'est un mystère, mes bien chers fidèles, un mystère que nous ne pouvons pas comprendre plus que tant, qui dépasse nos petits esprits bornés, parce que c'est un mystère de Dieu. Comment est-ce possible que ce Dieu, nous savons qu'il a créé l'univers, le ciel et la terre ne sont pas assez grands pour le contenir. L'univers, le firmament, dont on ne peut pas voir l'extrémité, n'est pas assez grand pour contenir ce Dieu. Ce Dieu est infini en toutes les perfections que nous pouvons connaître dans les créatures, infini en grandeur, infini en beauté, infini en puissance, infini en étendue, il n'a pas de limite, il n'y a pas de fin. Et comment donc est-ce possible que ce Dieu si magnifique, si grand, si infini, puisse se mettre dans cette petite hostie? Il faut vraiment avoir la foi. C'est vraiment un sacrement qui exige de nous la foi. Mais la foi n'est pas quelque chose de vague. C'est quelque chose de précis. Et cela, on le comprend très bien. Si quelqu'un nous dit une chose ou une autre, selon la personne qui nous dit cela, on y croit. On croit volontiers ce que les hommes nous disent, à moins que nous avons affaire à un menteur. Eh bien, ça, c'est la foi humaine. On y croit, on prend ce qui nous est dit pour une réalité. Ce n'est pas vague. Les enfants vont à l'école, ils croient leurs instituteurs, leurs maîtresses, et ils prennent ça pour des vérités. Eh bien, Dieu nous a révélé que cette petite hostie n'est rien d'autre que lui-même, ce Dieu infini. Ce Dieu rempli de bonté pour nous. Voilà. Comment est-ce possible? Bien sûr, à Dieu, tout est possible. Oui. Alors nous croyons, et nous sommes heureux de croire, et nous mettons toute notre confiance dans ces paroles de Dieu, parce que nous savons que ce Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas non plus nous tromper. Il est aussi impossible à Dieu de se tromper qu'un rond carré, c'est impossible. Ou c'est un rond, ou c'est un carré. Mais ça ne va pas. Eh bien, il est aussi impossible à Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui a tout créé, de se tromper. Alors remercions ce Dieu si bon. Quel abîme de bonté, quel abîme d'amour pour, de ce Dieu pour ses créatures. Si nous pouvions concevoir, si nous pouvions un peu découvrir. Saint Paul nous dit que le Sauveur, en se revêtant de notre chair, dans le mystère de l'incarnation, dans cette naissance à Noël, il a caché sa divinité et il a porté l'humiliation jusqu'à l'anéantissement. Comment? Un Dieu si grand, si puissant, qui s'anéantit. Mais, poursuit Saint Paul, en instituant le sacrement de la Sainte Eucharistie, le Sauveur a voilé son humanité. Il n'a laissé paraître que les entrailles de sa miséricorde. Oh, mes bien chers fidèles, voyez de quoi est capable l'amour d'un Dieu pour ses créatures. Vous le savez, il y a sept sacrements qui ont été institués par Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, parmi ces 7 sacrements, il n'y en a point qui puisse être comparé à la très sainte Eucharistie. Dans le baptême, bien sûr, nous recevons ce beau titre, cette dignité de fils de Dieu. Et nous sommes vraiment et réellement, par le baptême, les enfants de Dieu. Dieu, le baptême imprime en nous un sceau par lequel Dieu nous reconnaît comme ses enfants. C'est déjà pas rien. Et ainsi, il nous rend les héritiers de ce royaume éternel. Ce n'est pas peu de choses. Par la pénitence, ce si beau sacrement, eh bien, les plaies de nos âmes sont guéries. Et de plus, nous retrouvons l'amitié avec Dieu. L'amitié qui a été perdue par nos péchés, nous la retrouvons totalement. Il n'y a pas de cassure, mais l'amitié est retrouvée totalement. Tandis que dans ce sacrement de l'Eucharistie, non seulement nous recevons l'application de son sang précieux, mais aussi l'auteur de toute grâce. Nous recevons l'auteur de toute grâce, celui qui a tout créé. Saint Jean, l'apôtre aimé de Jésus, nous dit que Jésus-Christ, ayant aimé les hommes jusqu'à la fin, trouva le moyen de monter au ciel le jour de l'ascension et de rester sur la terre. Et pour cela, eh bien, il prit du pain, comme vous le savez, entre ses mains saintes et vénérables. Il le rompit, le bénit, le donna à ses disciples en leur disant, non pas, prenez ce pain qui est mon corps, c'est impossible, c'est tout, ou bien du pain, ou bien le corps, pas possible que ce soit les deux. Mais il dit, prenez ceci, voilà ce que j'ai dans mes mains. On voit, les apôtres ont vu les apparences du pain, mais notre Seigneur ne dit pas ce pain, mais ceci. Prenez ceci, car c'est mon corps. Voilà. Et ensuite, il prit le calice dans lequel il y avait du vin. Et bien aussi, il changea ce vin en son précieux sang. Prenez ceci et buvez-en tous. Et de plus, il donna ce pouvoir de changer le pain en son corps et le vin en son sang. Il donna ce pouvoir à tous les prêtres dans la personne des apôtres. Oh, quelles sont merveilleuses ces bontés de Dieu. Quelles sont belles ces merveilles de Dieu. Oui. Ainsi, comme dit Saint Jean, eh bien, il est monté au ciel tout en restant sur la terre. Il a réalisé ce miracle pour rester avec nous, pour nous servir de nourriture, pour nous consoler et nous tenir compagnie. Que ce Dieu est bon. Pourquoi sommes-nous si peu amoureux d'un tel Dieu? Pourquoi sommes-nous si peu touchés par tout ce que Dieu fait pour nous? Nous sommes bien des têtes dures, des nuques raides. Oui. Nous sommes bien plus durs que les cailloux. Notre Seigneur nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Mais celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. Voilà. Mais c'est un grand bonheur pour nous, mes bien chers fidèles, que d'aspirer à un tel sacrement. Voilà. Et vous, mes bien chers enfants, qui pour la première fois recevez ce corps de notre Seigneur, non seulement le corps, mais le sang, l'âme et la divinité. Voilà, vous allez recevoir tout cela dans cette petite hostie. Oui. Vous le savez, vous le croyez. Et notre foi doit être aussi forte, si ce n'est plus forte, que si nous voyons notre Seigneur lui-même. Il y a eu des miracles nombreux dans la très sainte Eucharistie où notre Seigneur est apparu. On a vu le visage du Saint-Suaire. Quelquefois, sur le corporal, ou la petite hostie, s'est montré, notre Seigneur s'est montré dans la petite hostie, eh bien, notre foi doit être aussi grande que si nous le voyons vraiment présent. parce que notre foi repose sur les paroles de Dieu qui sont beaucoup plus sûres, beaucoup plus certaines que nos sens. Nos yeux peuvent nous tromper, et si facilement. Vous prenez une pipette que vous mettez dans un verre d'eau, et il vous semble que la pipette n'est pas droite, mais qu'elle est pliée. Bien, vos yeux vous trompent. Voilà. Nous sommes trompés, nous savons qu'elle est pas droite par notre intelligence, sans que nous ayons l'évidence par nos yeux. Et quelquefois nos yeux nous trompent. Eh bien, la parole de Dieu ne peut pas nous tromper. Eh bien, notre foi en la Sainte Eucharistie, en la présence de Dieu dans l'hostie, est plus grande que celle que nos sens nous donneraient en voyant présent Jésus. Et ce qui dépasse encore davantage, c'est pourtant pas rien tous ces mystères, eh bien, c'est que notre Seigneur a un grand désir de venir dans notre âme, si nous pouvions comprendre, si nous pouvions voir ce désir ardent de notre Seigneur de venir dans notre âme. Il nous invite, et en lisant l'Évangile, nous voyons combien de fois nous sommes invités, combien de fois ceux de son temps étaient invités à manger sa chair et à boire son sang. Non seulement il nous invite, mais il nous en fait un commandement. Prenez ceci, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et non seulement il nous en fait un commandement, mais vous nous décidez à le recevoir. Il nous excite par une promesse. Si vous mangez cette chair et ce sang, vous aurez la vie éternelle. Et il va encore plus loin que de nous promettre la vie éternelle. Il va jusqu'à nous menacer que si nous ne mangeons pas cette chair et nous ne buvons pas ce sang, nous n'aurons pas la vie éternelle. Que pouvait-il faire davantage? Dieu ne pouvait pas faire plus. Comment un Dieu infini, la sagesse infinie, ne pouvait pas faire plus? Non, il ne pouvait pas faire plus. Et cela devrait essayer de briser nos cœurs endurcis, oui, endurcis par ces choses matérielles, par ces soucis du monde. Invitation, promesse, menace, tout est inspiré à Jésus par son désir de s'unir à nous dans ce sacrement. Et ce désir vient de ce grand amour qu'il nous porte. Saint François de Sales nous dit ceci. Car comme l'amour ne veut que l'union de l'objet aimé, on comprend, deux êtres qui s'aiment, que désirent-ils? Se trouver ensemble, c'est normal. Eh bien, comme l'amour ne veut que l'union de l'objet aimé, et que dans ce sacrement Jésus s'unit tout entier à notre âme, c'est ce qu'il dit dans cette parole de l'Évangile, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Dieu demeure en nous. Eh bien, voilà pourquoi il désire si ardemment que nous le recevions. Tant il nous aime et il nous donne par cela l'occasion de pouvoir nous unir à lui. Plus nous aimons Dieu, plus nous voudrions nous unir à lui. Peut-être qu'il vous est arrivé des fois de voir des jolis paysages en printemps ou en automne. Et peut-être avez-vous déjà éprouvé ce sentiment en voyant ces beaux paysages de vouloir embrasser ces paysages. En somme, de vouloir les imprégner en vous, ces paysages. Eh bien voilà ce que Dieu réalise dans la Sainte Eucharistie. Voilà. Il vient au plus intime de nous, au plus profond de notre âme. Dans l'Évangile, on peut lire cet épisode qui est très touchant de cette femme qui était atteinte d'une maladie depuis déjà des années. Elle avait été voir médecin spécialiste pour se faire soigner. Elle avait dépensé toute sa fortune pour être guérie. Rien à faire. Et elle s'est dit, si seulement je touche la frange du manteau de Jésus, je serai guérie. Voyez quelle foi elle avait. Eh bien, nous avons plus de chance que cette femme. Nous ne touchons pas que la frange du manteau, mais nous touchons l'auteur lui-même, notre Seigneur lui-même. Voyez. Et pourquoi? Pourquoi nos communions portent si peu de fruits? Eh bien, c'est parce que nous n'y apportons pas les dispositions qu'il faudrait. Parce que nous sommes bien médiocres, nous sommes bien petits. Voilà. Nous sommes bien tièdes, si ce n'est froid. Nous nous laissons facilement entraîner par la routine, par l'habitude, et c'est propre à l'homme. Que de choses nous faisons par routine, par habitude. Et là aussi, Nous sommes si facilement attrapés par cette routine, cette habitude. Alors il faut que nous réagissions contre et que nous nous rendions compte où nous allons, de qui nous nous approchons et qui nous recevons. Le Créateur de l'univers, celui qui aura le dernier mot, celui pour qui tout a été créé, comme vous avez lu dans l'Évangile, dans l'Épître l'Épître de Saint Paul aux Romains d'aujourd'hui. Tout a été créé pour lui, par lui. Voilà. Et tout sera soumis à lui. Alors, mes bien chers fidèles, réjouissons-nous de ce que le bon Dieu a fait pour nous. Oh, si nous pouvions comprendre le grand bien que nos âmes retireraient d'une seule communion, qui serait capable de faire de nous de grands saints. Apportons-y donc les dispositions. Quelles dispositions ? Mais la plus importante, c'est de ne jamais s'approcher de ce sacrement en état de péché mortel. Ce serait imiter ce qu'a fait Judas. Judas, en communiant, le diable est entré dans son âme. Il a commis un sacrilège qui l'a conduit au désespoir et à se pendre et à se damner. Lui, on est sûr qu'il est en enfer. Notre Seigneur nous l'a déclaré. Alors, il ne faudrait jamais s'approcher de la Sainte Eucharistie en état de péché mortel. Si l'on a conscience que notre âme n'est pas en état de grâce, il faut nous en abstenir et se confesser au plus tôt. Mais ce n'est pas la seule condition. Il faut s'approcher avec un grand désir, même si nous nous rendons compte que nous sommes indignes. Mais il faut aller chez le médecin. Si nous sommes malades, nous allons voir le médecin, c'est normal. Eh bien, il est le médecin de nos âmes. Quel meilleur médecin que lui ? Il n'y en a pas. Oh, on pourrait dire beaucoup de choses sur la Sainte Eucharistie. Eh bien, contentons-nous de ce quelque peu que nous savons, mais vivons-les. Pénétrons cela, que nous n'ayons pas cela en surface comme la peinture, mais que nous soyons plongés, que nous soyons pénétrés de cette réalité de la très sainte Eucharistie. Remercions Dieu et louons la très sainte et très auguste Trinité, non seulement aujourd'hui, plusieurs fois dans la journée, mais tous les jours de notre vie. Car c'est ce que font les saints au ciel continuellement. Et essayons de découvrir toutes les merveilles que le bon Dieu a fait pour nous. Comment pouvons-nous être aussi aveugles? Comment pouvons-nous ne pas voir toutes ces merveilles de Dieu? Oh, demandons cela à la très sainte Vierge, elle qui a été digne, qui a été prête de recevoir le Verbe incarné, qui a porté en elle pendant 9 mois, et qui l'a porté dans ses bras les premières années, et ensuite qui a vécu avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô heureux jour pour nous, mes bien chers fidèles, que ce jour de l'Épiphanie, jour mémorable où la miséricorde du Sauveur nous a tirés des ténèbres de l'idolâtrie pour nous appeler à la connaissance de la foi dans la personne des mages. C'est aujourd'hui l'appel des païens à la foi. Ces mages nous représentaient, puisqu'ils étaient des païens, venus d'Orient pour reconnaître et adorer le Messie, pour le reconnaître comme leur Dieu et leur Sauveur. Oui, mes bien chers fidèles, les mages sont nos pères et nos modèles dans la foi. Célébrons donc avec allégresse, comme nous invite le pape Saint Grégoire, célébrons avec allégresse ces commencements de nos heureuses espérances. Mais aussi, à l'exemple des mages, soyons fidèles à notre vocation, sans quoi tremblons que Dieu ne nous fasse subir les mêmes châtiments qu'aux Juifs. Les Juifs qui étaient le peuple choisi de Dieu, qui depuis Abraham a été comme conduit par la main, et partout ce Dieu leur s'était montré leur protecteur,
leur libérateur. Eh bien, Dieu les rejeta. Dieu rejeta son peuple choisi, son peuple élu. Pourquoi? Eh bien, à cause du mépris qu'ils ont fait de la grâce, des grâces de Dieu. Eh bien, tremblons que cela ne nous arrive pas, car nous sommes ce peuple choisi de Dieu. Nous avons été appelés à la foi, nous sommes nés dans le baptême. Craignons qu'un jour Dieu ne nous repousse si nous manquons de fidélité aux grâces que le bon Dieu nous donne. Oui, mes bien chers fidèles, craignons que cette foi nous soit enlevée et qu'elle soit donnée aux autres si nous ne pratiquons pas les œuvres de la foi. En considérant les mages, nous verrons qu'ils pratiquaient les œuvres, que leur fidélité, les œuvres que la grâce leur inspirait. Et ils le pratiquaient d'une manière prompte, généreuse et persévérante. Oui, mes bien chers fidèles, les mages ont été prompts à répondre à cette grâce que le bon Dieu leur a fait. Dès qu'ils virent l'étoile, ils quittèrent sur le champ, ils s'en allèrent entreprendre ce voyage suivant l'étoile. Ils étaient pressés et brûlants du désir d'arriver au terme où la grâce figurée par l'étoile les appelle. Oh, mes bien chers fidèles, que nous sommes bien éloignés de ces mages, que nous sommes bien loin de les imiter. Depuis combien d'années Dieu nous appelle par sa grâce et nous sommes si rebelles, nous sommes si insensibles. Oh, quand arrivera ce jour heureux où nous ferons comme les mages qui quittèrent tout et abandonnèrent leurs biens pour aller vers Dieu. Et immédiatement, dès que la grâce s'est manifestée, s'ils avaient attendu, ils n'auraient peut-être plus l'étoile pour suivre. Voyons aussi la fidélité des mages à la vocation. Avec quelle générosité ils répondirent à cet appel. Ils quittèrent tout. On peut peut-être se représenter un peu ce que cela signifiait. Quitter leur royaume, quitter leur palais, quitter leur commodité, quitter leurs aises, quitter leur famille. Pour entreprendre quel voyage? Un voyage pénible, un voyage long, fatigant. Suivre une étoile, qu'est-ce qu'ils ont dû se faire ridiculiser? Quoi, ces rois? Suivre une étoile? Eh oui, quelle foi il a fallu avoir à ces rois pour partir à la suite d'une étoile, ne sachant pas où cette étoile les conduirait. Ils ont tout quitté, ils ont tout abandonné, pour suivre notre Seigneur. Tout semblait s'opposer à cette entreprise. Ils sont encore partis par quelle période? La période la plus rigoureuse de l'année, en plein hiver. Eh bien, rien ne les arrêta. Voilà précisément en quoi consiste le mérite de la foi. C'est-à-dire de renoncer à tout et de sacrifier ce qu'on a de plus cher pour obéir à la voix de la grâce qui nous appelle. Hélas, mes chers frères, s'il fallait faire pour gagner le ciel les sacrifices qu'ont fait les mages, le nombre des élus serait très, très, très petit. Il y aurait très peu d'élus. Et pourtant, le bon Dieu ne nous demande pas autant. Seulement, si nous faisions pour nos âmes,
autant que nous faisons pour nos affaires temporelles, eh bien nous sommes sûrs de gagner le ciel. Et en faisant pour nos âmes autant que nous faisons pour nos corps ou pour les choses temporelles, eh bien nous ne faisons de loin pas ce qu'ont fait les mages, ces païens. Les rois mages furent donc conduits par cette étoile à Jérusalem, qui, en arrivant dans cette ville sainte, l'étoile disparut. Ils se croyaient sans doute dans le lieu où devait être né cet enfant qu'ils venaient adorer. Et ils pensaient que tout Jérusalem devait être au comble de sa joie par la naissance de son libérateur. Quel étonnement! Quelle surprise pour ces rois d'arriver dans cette ville sainte du peuple choisi de Dieu et de voir les gens ignorants, ne sachant rien de ce qui se passait. Le roi Hérode s'est troublé, voyant dans cet enfant le légitime roi descendant de David, puisqu'il était un roi illégal, illégitime, non pas le roi de la lignée de David. Alors lui, il se trouble. Il convoque les scribes, les pharisiens, tous ceux qui étaient chargés de scruter les Écritures et d'enseigner cela aux fidèles, leur demandant ce que disaient les prophéties à ce sujet, au sujet de ce Messie. Et il reçoit les indications précises. Il naît à Bethléem. Il le communique aux mages et demande aux mages, une fois qu'ils l'ont trouvé, qu'ils viennent l'avertir où cet enfant se trouve. Bien sûr, pour le tuer, puisqu'il voyait en cet enfant un rival. Quelle épreuve, mes bien chers fidèles, pour la foi de ces mages. En fallait-il davantage pour les faire renoncer à leur démarche et retourner le plus secrètement possible dans leur pays, de crainte d'être la risée de tout Jérusalem? Eux, pleins d'enthousiasme, arrivent dans cette ville et tous ces gens sont étonnés, sont même troublés, nous dit l'évangéliste. Eh bien, c'est que plusieurs d'entre nous, nous serions peut-être partis de peur d'être la risée de tout le monde. Mais les rois ne se laissent pas ébranler. Même si l'étoile les a abandonnés en apparence, ils foulent aux pieds le respect humain et ils pénètrent jusque dans le palais d'Hérode, lui demandant où est ce roi nouvellement né, lui déclarant sans crainte qu'ils sont venus l'adorer, eux, ces grands rois païens. Ils veulent trouver leur Dieu, et à quelque prix que ce soit. Quel courage et quelle fermeté nous donne-t-il là? Et nous, où en sommes-nous? Nous qui craignons quelques railleries, nous craignons un qu'en dira-t-on? Cela nous empêche de remplir nos devoirs de la religion. Nous craignons de faire le signe de la croix lorsqu'il est nécessaire. Nous craignons de nous montrer chrétiens en société, alors que ces païens ne cachent pas qu'ils sont venus pour adorer ce roi d'Israël. Dès qu'ils ont obtenu l'indication, immédiatement, plein d'ardeur et d'enthousiasme, ils s'en vont, mais seuls. Ceux qui leur ont donné les indications ne se sont même pas joints à eux. Terrible mystère. Ces païens s'en vont seuls et le peuple choisi reste chez lui dans ses commodités. Et ils sont récompensés. Sortant de Jérusalem, l'étoile leur apparaît et elle les conduit comme les tenant par la main au lieu où se trouvait cet enfant Dieu. Quel spectacle à l'arrivée de ces rois, pleins de majesté, pleins de grandeur, sachant qu'ils allaient adorer le roi des rois, puisqu'il a fallu un astre du ciel pour venir l'annoncer. Ils ont dû revêtir les ornements les plus riches qu'ils possédaient, les ornements royaux. Oui, quel spectacle! Ces grands rois viennent, que trouvent-ils? Un petit enfant dans de pauvres conditions. Mais cela ne les arrête pas non plus. Ils admirent dans cet enfant ce roi, ce Dieu, et ils l'adorent, ces grands rois à genoux devant un petit enfant. Quelle merveille! Oh, mes bien chers fidèles, que la foi est quelque chose de précieux, que la foi est grand. C'est la foi qui a fait que ces mages se sont comportés ainsi devant ce petit enfant de Bethléem. Et que de leçons nous pouvons tirer là. Quelle générosité! Et que de leçons nous pouvons tirer là. Quelle générosité! Quelle persévérance, malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré tout ce qui s'opposait à leur entreprise. Et nous, qui avons cet enfant, qui le recevons si souvent, combien peu nous sommes généreux de venir trouver cet enfant. Eux n'ont pas hésité de faire des semaines de marche pénibles, quittant tout, pour aller adorer cet enfant, et nous, qui pouvons si souvent aller devant un sacrement. Nous sommes si attachés à nos commodités, ça nous dérange, ça perturbe notre programme. Nous avons d'autres choses à faire. Oh, mes bien chers fidèles, quelle honte nous aurons au jugement dernier, en voyant ce que des païens ont fait. Et nous, le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple chéri de Dieu, qui avons été conduits par la main, par les grâces qu'il nous a faites, nous sommes si lâches. Quand nous recevons quelque lumière, nous croyons que nous sommes des privilégiés, que nous sommes les amis intimes de Dieu. Alors nous nous contentons de cela, mais nous ne passons pas aux actions. Le bon Dieu nous donne des lumières intérieures, il nous fait comprendre des choses. Mais ce n'est pas pour se dire, alors je suis bien comme je suis, et ça suffit. Attention, plus Dieu fait pour nous, plus les châtiments sont terribles. Et si nous faisons comme les Juifs qui ont méprisé les grâces de Dieu, eh bien, peut-être qu'un Dieu nous enlèvera ses grâces pour la donner à d'autres. Et à ce moment-là, nous ne pourrons plus aller vers Dieu. Nous n'aurons plus la lumière. Les Juifs n'ont même plus été émerveillés de ce miracle de la résurrection de Lazare. Eh bien, ils n'ont plus la grâce de se convertir. Et ils ont décidé d'ailleurs, depuis ce moment-là, de tuer Jésus. Veillons, mes bien chers fidèles, de ne pas être médiocres et moindres que ces rois mages, ces païens d'Orient, qui ont été fidèles à la grâce que le bon Dieu leur a donnée. Ils sont venus et ils ont apporté des présents qui traçaient, qui exprimaient l'idée qu'ils se faisaient de cet enfant. De l'or, présent que l'on offre au roi, cet enfant est le roi des rois. De l'encens, reconnaissant cet enfant, Dieu. Il est plus qu'un roi, il est Dieu. L'encens, c'est ce qui est offert à Dieu. Et la myrrhe, reconnaissant cet enfant qu'il est Dieu, mais également homme, et que par sa mort, il nous rachèterait. Eh bien, nous aussi, mes bien chers fidèles, nous pouvons faire les cadeaux que les rois ont faits, car l'or représente la charité. L'encens représente la dévotion, la piété, la vertu de religion, ce qui nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et la myrrhe représente la mortification. La myrrhe, c'est ce qui servait à embaumer les morts. Eh bien, nous pouvons offrir la myrrhe par notre mortification, notre pénitence, notre abnégation, qu'il faut souvent faire si nous voulons suivre notre Seigneur. Oh, mes bien chers fidèles, ne laissons pas passer cette journée sans prendre de bonnes et sincères résolutions. Il n'est pas nécessaire de prendre 36 résolutions, une ou deux. En tout cas, de rompre avec le péché et de tout ce qui entraîne au péché. De ne pas hésiter entre perdre cet enfant qui non seulement est dans le tabernacle, mais qui est en nous par la grâce sanctifiante. Est-ce que nous pouvons imaginer, si les rois mages avaient su ça, si les rois mages avaient pu recevoir en eux la grâce sanctifiante, tout ce qu'ils ont fait pour venir qu'adorer l'enfant, et nous perdons si facilement la présence de Dieu par le péché mortel. Oh, quel reproche nous aurons au jugement dernier, et que le châtiment sera terrible pour ceux qui, après avoir pu contempler tant de miséricorde de Dieu, méprisaient ses grâces. Demandons à notre Sainte Vierge qu'elle nous garde fidèles, qu'elle nous rende généreux. Demandons à ces saints rois mages, qui Dieu du ciel nous regarde. Ils sont arrivés, maintenant ils contemplent ce Dieu dans toute sa majesté, celui qu'ils ont contemplé dans cette humiliation. Demandons-leur d'intercéder pour nous auprès de la très sainte Vierge Marie qui a été témoin de ce spectacle de l'adoration des mages. Demandons-lui à cette bonne mère du ciel de nous obtenir cette générosité, voyez, à faire tout, à tout perdre s'il le faut, mais à ne pas perdre ce don précieux, la présence de Dieu en nous par la grâce sanctifiante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Poursuivons donc, mes bien chers fidèles, comme nous nous sommes proposés, de découvrir ce trésor caché, hélas, caché pour la plupart des chrétiens. Ce trésor, vous le savez, c'est le Saint Sacrifice de la Messe. Nous avions dit dernièrement que le sacrifice de la messe, eh bien, n'est rien d'autre que le sacrifice du calvaire renouvelé sur nos autels, qui n'est offert qu'à Dieu seul et non aux anges et aux saints. Vous savez bien que le Saint Sacrifice de la messe a été institué la veille de la mort de notre Seigneur, le jeudi saint, lorsqu'il prit du pain et qu'il le changea en son corps, et du vin et qu'il le changea en son sang. Et aussi, il institua le sacrement de l'ordre, donnant le pouvoir aux apôtres et à tous ses successeurs de réaliser ce saint sacrifice, de le rendre présent jusqu'à la fin du monde. Dans le saint sacrifice de la messe, bien sûr, c'est Jésus qui est le souverain et l'éternel prêtre, le sacrificateur, le principal ministre. Il offre le sacrifice en son nom et par sa puissance propre. Sans doute, il se sert du prêtre. Il se sert de l'instrument qu'est le prêtre pour réaliser, pour réactuer ce saint sacrifice. Là aussi, on pourrait se perdre dans la contemplation ou rester en admiration en pensant que à chaque messe, c'est Jésus lui-même qui vient
offrir ce saint sacrifice.
Si l'on vous disait, à telle date, à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, notre Seigneur vient en personne pour réaliser un grand sacrifice. Eh bien, vous verrez les foules qui se déplaceraient pour aller voir notre Seigneur. Eh bien, c'est ce qui se réalise sur nos autels.
Mais comme je vous le disais déjà dimanche dernier, bien sûr, des yeux du corps, on ne voit pas grand-chose, mais il ne faut pas s'arrêter à cela.
Il faut que nous vivions, que nous voyons ça des yeux de l'âme, des yeux de notre foi. Je vous le disais, la messe, c'est l'âme de la foi. C'est ce qui anime notre foi.
Le Saint-Sacrifice de la messe exige de nous de vivre de la foi afin de comprendre à la mesure du possible, mais de se rendre compte de ce qui se passe et où nous sommes.
Le prêtre à la messe dit « Ceci est mon corps » et vous savez bien que ce n'est pas le corps du prêtre, la Sainte Eucharistie, mais le corps de notre Seigneur. Ça nous montre bien comme quoi le prêtre, c'est l'instrument de Jésus qui réalise ce saint sacrifice. Le prêtre prête ses mains, prête son corps, prête sa bouche, prête tout à Dieu pour réaliser ce saint sacrifice. Donc le sacrificateur principal, c'est Jésus. Pensons-y, chaque fois que nous allons à la messe, Jésus vient en personne dans tout, pour offrir le sacrifice. Quelle merveille! De quoi nous arrêter continuellement sur cette pensée, sur cette réalité. Et les fidèles qui sont là à la messe, eh bien, que doivent-ils faire? Ils doivent s'unir à cette action, à ce sacrifice, par le ministre du prêtre. Nous sommes tous les membres de l'Église, les membres du corps mystique, et bien que tout ce corps mystique, voyez, soit uni pour l'offrande de ce saint sacrifice. Jésus est la tête de ce corps mystique. Nous sommes unis à lui par la grâce sanctifiante. Quelle grande réalité que se passe sous nos yeux pendant la messe. Et donc, il faut que vous ne soyez pas seulement présents de corps, bien sûr. Il faut que vous soyez présents avec vos âmes, que vous essayiez de vivre cet instant, de vivre de la foi, de considérer ces choses selon la foi, et non pas selon les yeux du corps. Et donc, la meilleure façon d'assister à la messe, eh bien, c'est de vous unir en suivant les prières, ces belles prières du missel que l'Église a sculpté ou a travaillé tout au long des siècles. Il faut aussi répondre aux invocations du prêtre. C'est la manière de s'unir à ce saint sacrifice. Aussi prendre part aux chants, les chants que la liturgie met sur nos lèvres. Voilà. Et ne pas rester là à rêver, à être tout à fait ailleurs d'esprit. Pas que cette malédiction nous soit faite. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur esprit est tout à fait absent. Dans la messe, nous pouvons distinguer en gros trois parties. La première partie, elle va du début jusqu'à l'offertoire. La deuxième comprend l'offertoire et la consécration, et elle va jusqu'à la communion. Et la troisième partie, la Sainte Eucharistie. Eh bien, c'est une division. En gros, on pourrait davantage préciser, cependant, cela nous prendrait beaucoup de temps. Dans cette partie première, qui va donc du début jusqu'à l'offertoire, nous devons nous comporter comme des pénitents. Nous disons le confiteor, il y a les prières au bas de l'autel. On regrette, on accuse nos fautes pour en obtenir le pardon. Par les prières et après l'offertoire qui sont des sacramentaux. Oui. Il faut que nous nous comportions comme des pénitents, pénétrés de la plus vive douleur de nos péchés. Dans la deuxième partie, qui comprend donc l'offertoire et la consécration, nous devons faire le sacrifice de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire
offrir à Dieu nos corps, nos âmes, nos biens, notre vie et même notre éternité. Et pour la troisième partie, eh bien, nous devons nous regarder comme des personnes qui doivent participer au corps adorable et au sang précieux de Jésus. Oui, que nous allons, qu'allons-nous donc recevoir par la Sainte Communion, bien sûr. Encore là, voyez, si nous regardons la petite hostie des yeux du corps, ce n'est pas bien grand-chose. Mais si nous regardons les yeux de la foi, alors, c'est l'infini qui se présente à nous, le Créateur de toutes choses, celui qui a tout fait d'une seule pensée, cet être tout-puissant, infiniment puissant. Oui, c'est celui-là que nous recevons. Et donc, nous devons faire tous nos efforts pour nous rendre dignes de cet honneur, dans la mesure de notre possible. Mais pour nous aider à saisir la manière dont nous devons entendre la Sainte Messe, nous pouvons prendre trois exemples que nous tirons de la Sainte Écriture. Dans la première partie de la messe, il faut que nous essayons d'entrer dans l'esprit du publicain. Vous connaissez ce que notre Seigneur nous dit au sujet du publicain et du pharisien. Et l'évangéliste Saint-Luc nous rapporte ses paroles, que le publicain se tenait au bas du temple, baissant les yeux contre terre, n'osant regarder l'autel et se frappant la poitrine en disant à Dieu, « Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis un grand pécheur. » Attitude d'humilité, attitude de vérité, c'est ce que nous sommes. Il ne faut pas nous tromper, oui, en nous prenant pour autre que ce que nous sommes. Attitude d'humilité. Pour entrer dans ces sentiments, eh bien, il faut se préparer déjà avant d'être à la chapelle. Il ne faut pas se préparer à la messe une fois qu'on est entré dans la chapelle. Voyez. Non, il faut partir déjà. Il faut se préparer déjà dès le lever. En vous levant le matin, que sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur. Qu'allons-nous donc faire? Nous allons nous rendre à l'église. Nous allons assister à ces saints mystères, à ce grand mystère de la rédemption qui va se réaliser sous nos yeux. Déjà, s'animer d'un vif désir. Déjà, c'est une préparation éloignée. Se préparer aussi par le recueillement. Ne laissez pas votre âme entrer dans votre âme toutes sortes d'inutilités, voyez. Laissez tous ces soucis temporels de côté pour ce temps-là. Et ensuite, en vous rendant, en sortant de chez vous pour vous rendre à la chapelle, aussi, gardez le recueillement. Ne vous laissez pas aller à parler de toutes sortes de choses vaines et utiles et mondaines. Non. Ou alors entretenez-vous, ou stimulez-vous. Priez, demandez à la Sainte Vierge, aux saints, de vous aider à vous préparer de toute votre âme pour avoir les plus grands sentiments en entrant dans la chapelle, dans l'église. Et ainsi, quand vous entrez dans l'église, eh bien, vous prenez l'eau bénite, vous vous signez, c'est un sacramental qui chasse les démons. J'ai une affection pour adorer Dieu. Et là, alors, vos sentiments seront bien différents avec toute cette préparation dès le réveil. Voilà, et puis ensuite, essayez d'entrer dans cet esprit de ce publicain, les yeux baissés. Oui, je ne suis pas digne même d'entrer dans cette maison. Cependant, j'ai confiance, car Dieu est notre Père. Entrez comme les enfants, plein de confiance en Dieu. Voilà, bien qu'indigne. Frappez-vous la poitrine, Seigneur, ayez pitié de moi, qui ne suis qu'un pauvre pécheur. Ainsi, dans les prières au bas de l'autel et toutes ces prières de la première partie, bien, vous en profiterez davantage, vous comprendrez mieux, vous rentrerez mieux dans ce sens. Ces prières sont là pour... C'est l'expression de l'âme que nous devrions avoir dans cette première partie de la messe. Oui. Il y aurait beaucoup à dire encore. Il y aura à commenter un peu chacune de ces parties, l'introïte, le kyrie, le gloria, etc., et puis les lectures, la partie de formation.
d'instruction. Or, si nous avions le bonheur d'assister dans cette première partie de la messe avec les sentiments que le publicain avait, que de grâce, que de bien nous obtiendrions. Dans quel esprit devons-nous rentrer pour cette deuxième partie? Eh bien, l'esprit du bon larron. Le bon larron qui a assisté au calvaire, attaché à la croix. Et on pourrait là aussi contempler toute la transformation qui s'est faite dans l'âme de ce larron qui était quand même un voleur. Ce n'était pas un saint avant, hein? Il est devenu saint au calvaire. Voyons comment cet heureux pénitent se comporte dans le temps même de son supplice. Il est attaché à la croix, torturé par la douleur. Il ouvre ses yeux, les yeux de son âme à la foi, pour reconnaître son libérateur. Oui, nous, c'est justice que nous souffrions ça. Lui, qu'a-t-il fait? C'est injuste qu'il souffre cette crucifixion. Il essaye de reprendre le mauvais larron, l'empêcher de continuer d'insulter notre Seigneur, qui était fâché parce que si notre Seigneur n'avait pas été crucifié, il n'aurait pas été crucifié tout de suite. Pendant 3 heures, ils sont là. Le bon larron est là, essayant de contempler comment notre Seigneur souffre, ce que notre Seigneur dit, les 7 paroles en croix. Que fait-il pendant ces 3 heures où il se trouve en compagnie de son sauveur mourant? Voilà. Il est attaché à la croix, les pieds et les mains liés, mais son cœur et sa langue sont libres. Et il s'offre, voyez, il s'offre à notre Seigneur, il offre ce qu'il peut, et le cœur et la langue. Il lui consacre le cœur par la foi et l'espérance. Il lui demande humblement une place dans son paradis. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis, dans ton royaume. La vue de Jésus mourant a converti ce bon larron. Oh bien, chers frères, eh bien, nous avons ces mêmes avantages que le bon larron. Nous sommes à cette même passion. Que de grâce le bon Dieu pourrait nous donner si nous avions ces sentiments, si nous assistions ainsi à la Sainte Messe, au Saint Sacrifice de la Messe. Il n'y a point de moment plus privilégié où le bon Dieu veut nous répandre, nous combler de grâce, que ce moment de la consécration. Forçons-nous d'entrer dans ces sentiments de foi. Laissons de côté cette manière humaine de considérer les choses. Contemplons devant quel mystère nous sommes. Il suffirait d'être animé d'une foi vive pour qu'une seule messe fasse de nous de grands saints. Oui. Ah, si nous avions des sentiments profonds, de foi profonde à la messe, nous pourrions devenir, avec une seule messe, des grands saints. Hélas, à combien de messes avons-nous assisté? Combien peu de fruits nous en avons retirés? Mais aussi, si nous réfléchissons, avec quel peu d'application nous avons assisté à ces messes. Et là encore, nous pourrions dire beaucoup de choses sur cette deuxième partie, sur cette attitude, sur cet esprit que nous devrions avoir pendant ce si grand moment où Jésus renouvelle ce mystère de la rédemption. Et la troisième partie, donc, qui va de la consécration, donc c'est la partie de la communion. Quel esprit devrions-nous avoir? Nous devrions avoir l'esprit de ce centurion. Ce centurion, romain, païen donc, mais qui a manifesté une foi admirable. Notre Seigneur a été émerveillé de la foi de ce centurion. Ce centurion qui déclare, et d'ailleurs l'Église veut nous faire entrer dans ses sentiments puisqu'elle met sur nos lèvres ces paroles « Domine non sum dignos, utitres subtectum meum, sed tantum dic verbo et salabitur anima mia. » Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Oh oui, combien nous ne sommes pas dignes que le Créateur vienne dans la créature, que l'être infini, la perfection même, la perfection de tout ce qu'il y a de bon de beau vient dans une petite créature comme nous. Quelle misérable créature, nous ne sommes pas dignes. Cependant, il veut venir en nous. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les mourants, pour les pécheurs, pour ceux qui ont l'âme malade. Ayons confiance, ayons ces sentiments de ce centurion qui reconnaît à notre Seigneur qu'il est le Créateur, que tout lui est soumis. Moi, j'ai des soldats, des seconds, je dis à l'un, fais ceci, il le fait, je dis à l'autre, fais cela, il le fait. Cela veut dire, bien, vous êtes encore au-dessus de tout. Tout vous est soumis. Si vous voulez, vous dites une parole et mon serviteur est guéri. Là aussi, que de contemplation nous pourrions faire. Approchons-nous de la table sainte avec ces sentiments du centurion. Nous ne sommes pas dignes. Lorsque vous direz ces paroles, Domine non sum dignus, pensez-y, non, nous ne sommes pas dignes. Mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Et approchez-vous de la table sainte avec joie, avec bonheur de recevoir votre Créateur, votre Sauveur, votre Dieu, celui qui un jour vous jugera, mais qui vous récompensera aussi de la peine que vous aurez prise pour le suivre. Voilà, mes bien chers fidèles, quelques considérations sur la Sainte Messe, sur ce trésor caché. Oh, si nous pouvions apprécier la messe comme elle mérite d'être appréciée, nous n'en laisserions passer aucune. Nous serions nous dérangés pour assister à la Sainte Messe, tant nous apprécierions. Donc, augmentons en nous cette vertu de foi. Demandons à la très Sainte Vierge Marie, elle qui est présente, à toutes les messes qui se célèbrent, elle est présente. Demandons-lui de nous faire entrer dans ces sentiments de foi profonde, que nous essayons toujours de mieux réaliser ce qui se passe sous nos cieux. Ayons la garde du cœur, chassons de nous loin tout ce qui pourrait nous distraire, nous étourdir ou nous ravir tous les fruits que nous pourrions gagner. Demandons aussi à tous ces saints qui ont tant apprécié le Saint-Sacrifice de la Messe. Demandons au bon larron, au saint bon larron, aux saintes femmes qui étaient au pied de l'autel, au pied de la croix, de nous aider à entrer les sentiments profonds de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'événement rapporté par l'Évangile d'aujourd'hui se situe au jour des rameaux, donc 5 jours avant la mort de notre Seigneur sur la croix. Il était sur la colline qui était en face de Jérusalem, la colline sur laquelle se trouve le jardin des Oliviers, et plus haut, ce sera le lieu où il s'élèvera pour monter au ciel le jour de l'Ascension. Il y avait beaucoup de monde qui était venu entourer notre Seigneur ce jour-là, car beaucoup avaient entendu parler de cette merveilleuse résurrection de Lazare. Beaucoup étaient venus là pour l'acclamer. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et malgré tout cela, malgré toute cette foule qui venait l'acclamer, notre Seigneur, voyant Jérusalem, se mit à pleurer. Notre Seigneur est Dieu, et en voyant Jérusalem, il voit tous les bienfaits qu'il a accordé à cette ville dans le passé, ville qui a été chérie, ville dans laquelle a été bâti ce temple, ce fameux temple de Salomon, que jamais aucune bâtisse n'a pu égaler depuis, qui a été rebâti ensuite, après le retour de la captivité de Babylone, mais bien inférieur à ce qu'il avait été au temps de Salomon. Ce temple où s'offraient là les sacrifices, qui annonçaient le sacrifice de notre Seigneur, ce temple dans lequel il y avait la présence de Dieu, l'Arche d'Alliance, le Saint des Saints, ce temple que Dieu a voulu qu'il soit bâti. Ce temple, donc, le seul temple qu'il y avait, où l'on offrait des sacrifices. Il n'y avait pas des églises un peu partout comme nous, il y avait des synagogues. Les synagogues n'étaient des lieux d'instruction, et on n'offrait pas des sacrifices dans les synagogues. Le sacrifice était offert à Jérusalem, où les grandes fêtes étaient célébrées. Notre Seigneur y voyait aussi la malice, l'ingratitude des hommes, non seulement de ce moment-là, mais déjà du temps passé, cette ingratitude qui a été jusqu'à massacrer les prophètes. Oui. Et cette ingratitude, cette malice qui ira à son comble jusqu'au déicide, à faire mourir Dieu. Et notre Seigneur, en regardant Jérusalem aussi, il voit l'avenir, il voit le châtiment qui est réservé à cette ville, à ses habitants, terrible châtiment. À lire les historiens, Flavius Josèphe entre autres, et ceux qui parlent de cette ruine de Jérusalem, de ce châtiment de Jérusalem, disent que l'humanité n'a jamais connu un pareil châtiment. C'était terrible. Ce châtiment qui est venu donc en l'an 70 sous Titus, 70 de notre ère. Eh bien, ce douloureux tableau excite en notre Seigneur une vive émotion. Notre Seigneur pleure de tendresse, de compassion. Que pouvais-je faire pour ma vigne que je n'ai fait? Comme une poule veut rassembler ses petits sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Il se plaint déjà par la bouche d'un prophète. Et aujourd'hui, dit-il, si tu connaissais toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné ce qui te procurerait la paix, mais maintenant, cela est caché à tes yeux. C'est comme une plainte douloureuse et un dernier avertissement du cœur aimant et miséricordieux de Jésus. C'est comme s'il leur disait, ô infortuné Jérusalem, si après tant d'infidélités passées, tu pouvais seulement comprendre cette dernière grâce qui t'est faite en ce jour. Car aujourd'hui même s'accomplit la parole de la prophétie de Zacharie, voici que ton roi vient à toi plein de mansuétude, plein de douceur. Pour toi, poursuit notre Seigneur, je suis descendu du ciel et j'ai pris une nature humaine. Pour toi, j'ai vécu 30 années, pauvre, humble et caché. Pour toi, j'ai parcouru pendant 3 ans les villes et les bourgades de la Judée, prêchant le royaume de Dieu, chassant les démons, faisant toutes sortes de miracles et semant les bienfaits partout sur mon passage. Je viens encore en ce jour t'offrir la paix, le salut, le bonheur. Ah, si tu comprenais ce dernier appel de ton Sauveur, si tu voulais faire pénitence et croire en moi, moi qui suis ton Père, ton Rédempteur et ton Dieu, que tu serais heureuse et justement confiante. Mais hélas, tu es aveugle, et aveugle volontaire. Tu as tout pour voir, et tu ne veux rien voir. Tu fermes tes yeux à la lumière, tu préfères l'obscurité. Tu ne veux comprendre ni mon amour, ni mes bienfaits, ni ta perfidie et ton ingratitude, ni le malheur terrible qui te menace. Et dans 5 jours, tu mettras le comble à tes crimes en me faisant mourir ignominieusement, moi qui t'apporte le salut. C'est pourquoi je pleure sur toi, car puisque tu ne veux pas reconnaître celui qui seul peut faire ton bonheur et que tu prépares à le renier et à le crucifier, voici que bientôt Dieu te visitera mais dans sa fureur. Le temps de ta ruine n'est pas éloigné. Il y a pour nous, mes bien chers fidèles, matière à réflexion dans cet événement. Dans cette écriture, souvent, Jérusalem est comparée à notre âme. Eh bien, ces pleurs de Jésus sur l'infidèle Jérusalem, le châtiment qui lui est annoncé et qui est tombé sur elle à cause de ses crimes et de son endurcissement, peut-être se rendre pour nous aussi. De combien de grâces n'avons-nous pas été favorisés depuis notre naissance? À peine étions-nous nés que nous avons été élevés à un état surnaturel, à la vie divine. Nous avons reçu la grâce sanctifiante. Que de bienfaits le bon Dieu nous a couverts, naturellement et surnaturellement, à notre première communion où il s'est donné à nous, et à toutes les communions où il se donne à nous pour être intimement unis à chacun de nous. Et tant d'instructions que nous avons pu recevoir ou que nous aurions pu recevoir, que nous n'avons pas profité. Tant de sacrements reçus, tant de saints sacrifices de la messe auxquels nous avons assisté ou que nous pouvions assister sans peine. Et pourtant, quel abus n'avons-nous pas fait de tant de moyens de salut et de sanctification? Ne sommes-nous pas plus ingrats, plus endurcis et par conséquent plus coupables que les Juifs? Il y a une différence, c'est que nous connaissons et nous savons qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert pour nous, qu'il est notre Rédempteur, nous le savons, nous l'avons appris. Et malgré ça, nous nous désintéressons souvent. Nous le renions, nous le crucifions à nouveau. Nous sommes bien pires que les Juifs. Ah, nous avons lieu, nous aussi, de craindre les châtiments de Dieu. Que d'individus foulent aux pieds les dons de Dieu, méprisent ses grâces et semblent vraiment se moquer de ses menaces réitérées. Mais le jour de la colère n'est peut-être pas loin. Dieu punit tôt ou tard les âmes rebelles et infidèles, les âmes qui ne veulent pas recevoir les visites du Sauveur, qui ferment leur cœur aux appels de notre Seigneur, ou qui ne les reçoivent que pour en abuser. Notre Seigneur a pleuré sur Jérusalem, Jérusalem qui était la ville sainte, la ville des pontifes. C'est là que résidait le grand prêtre et toutes les autorités religieuses. Notre Seigneur aussi peut pleurer aujourd'hui sur Rome, la ville sainte, la ville des pontifes, qui rejette notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par ce faux œcuménisme, ils ont découronné notre Seigneur. Ils ne veulent plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne.
Nous pouvons découvrir quelque peu cet amour de notre Seigneur pour les siens, pour son pays, pour ce pays qu'il verra châtié, qu'il verra puni pour avoir rejeté celui qui pouvait apporter la paix, pour l'avoir rejeté lui-même. Et cet évangile coïncide avec la fête de notre pays, de notre patrie. Et pour ce pays, nous devons exercer la vertu de piété, comme pour chaque citoyen doit exercer la vertu de piété pour son pays. En effet, la justice exige que nous rendions à chacun ce qui lui est dû. est le plus grand créancier de la créature raisonnable, bien c'est le bon Dieu. Il nous donne et il conserve tout notre être. En même temps, il possède sur nous l'autorité suprême pour nous faire parvenir à la perfection et au bonheur. À lui donc, nous sommes tenus de réserver un culte auquel ne saurait prétendre aucune créature. Mais, après Dieu, et avant toute autre créature, les parents et la patrie sont, de par la volonté providentielle, appelés à nous communiquer nos vies et à les diriger. Et par conséquent, et c'est d'ailleurs ce que nous dit saint Thomas, c'est aux parents et à la patrie qu'en bonne justice, nous sommes tenus d'accorder davantage. La piété, c'est la vertu par laquelle nous remplissons ce devoir envers Dieu, envers les parents et envers le pays, envers la patrie. Et donc le chrétien peut et doit même aimer son pays plus que les autres. Cet amour est dans la nature de l'homme. Et la religion chrétienne, bien sûr, ne détruit pas la nature, mais au contraire, la transfigure et la développe. En disant « le chrétien peut aimer sa patrie », on dit très peu. Il faut dire plutôt « le chrétien doit aimer sa patrie ». C'est un commandement. L'amour de soi-même, l'amour des parents, non seulement est permis, mais recommandé et commandé. Et alors pourquoi doit-on aimer notre pays? Pourquoi doit-on aimer son pays dont nous tirons l'origine et auquel on appartient? Eh bien parce que le pays forme une grande famille. De même que l'on aime ses parents, plus que ses amis, ainsi il nous faut aimer notre pays plus qu'un pays étranger. De même qu'un enfant aime sa mère, plus que la mère d'un autre, même si elle a plus de qualité. Et de même, il nous faut aimer notre pays, mais sans mépriser, sans haïr les autres. Oui. L'amour du pays est donc fondé sur la loi naturelle, c'est-à-dire sur la volonté du Créateur. C'est lui-même qui le veut ainsi. Dieu nous a mis naturellement au cœur un plus grand amour pour nos parents que pour les autres hommes. Et de même, il nous a donné un plus grand attachement pour le peuple dont nous descendons et dont nous faisons partie. L'amour du pays est donc un précepte de la loi naturelle et les préceptes de la loi naturelle, voilà, sont... ne sont pas abolis par le christianisme, au contraire, ils sont renforcés. L'amour de la religion et l'amour du pays ont Dieu pour auteur. Et bien, on voit notre Seigneur, les prophètes, Notre-Dame, les apôtres et les saints ont aimé leur pays, ont aimé leur patrie. Ils étaient enthousiastes. Il se dévouait pour cette cause, pour ce pays. Jérémie pleurait sur les ruines de Jérusalem. Et saint Paul désirait être anathème pour sauver sa nation. C'est ce qu'il nous dit dans sa lettre aux Romains. Pour estimer le pays, bien sûr, il faut se rappeler les faits, ce que nos ancêtres ont fait pour consolider, pour établir, pour défendre le pays, connaître l'histoire de son pays. Cela nous aidera à l'estimer, à avoir un plus grand amour et à poursuivre en somme leur œuvre, à rentrer dans l'esprit de nos ancêtres. Esprit, nous savons, à être plein de foi, puisqu'ils ont fait ce pacte en 1291 en commençant par les paroles « Au nom du Seigneur Tout-Puissant, Dieu était la pierre sur laquelle ils ont bâti. » De même qu'on ne peut pas être indifférent vis-à-vis du bien, vis-à-vis de notre famille, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Eh bien, ainsi, cette grande famille que fait le pays, que forme le pays, nous ne pouvons pas être indifférents. Mais aussi, nous ne devons pas exagérer le patriotisme. Et le pays n'est pas un but suprême, un but absolu. Non. Et il ne faut pas non plus aller jusqu'au mépris ou à haïr les pays voisins ou les pays ou d'autres pays. Non. Ça, ce serait un désordre. Tout extrême n'est pas la vertu. Alors, mes bien chers fidèles, prions bien aujourd'hui pour attirer encore davantage ces bénédictions du bon Dieu et qui nous garde notre pays et ce qui est surtout chrétien, catholique.
Nous avons bien des leçons à apprendre de l'évangile de ce jour. Eh bien, demandons à notre Sainte Vierge Marie, demandons à tous ces saints, voyez, de nous garder fidèles. Et pour nous consoler, eh bien, je vous citerai une petite phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Oh, combien je désirerais vivre au temps de l'Antéchrist, parce que là, nous pourrons rendre compte de notre foi, nous pourrons témoigner de notre foi. » Eh bien, nous sommes ces heureux que Sainte Thérèse d'Avila enviait.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.